Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on reprend dans le bon ton, dans le bon moment. Et oui, effectivement, après cette faut bien payer le loyer et grosse dédicace au réchaud. Oui, j'adore. C'est vraiment la meilleure pub. En tout cas, Columbia face à l'administration Trump, une université face à un gouvernement, une attaque contre une liberté académique. C'est le sujet actuel. Et oui, bonjour à tous et à tous. Si vous aviez raté, on est dans l'émission Le 9 actuellement. Et pour cette nouvelle édition de cette semaine, la chronique d'actualité portera sur ce sujet. L'université Columbia qui soulève des questions cruciales sur la liberté académique et la liberté d'expression et l'ingérence du gouvernement dans l'enseignement supérieur américain. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 7 mars 2025, Donald Trump a coupé 40 millions de dollars de subventions fédérales à Columbia, accusant l'université de ne pas avoir protégé les étudiants juifs face à des actes antisémites lors de nombreuses manifestations pro-palestiniennes qui ont secoué le campus durant octobre 2023. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, l'administration Trump a annoncé également que plusieurs départements des études du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud et de l'Afrique seraient placés sous tutelle académique, permettant au gouvernement de surveiller son enseignement, ses recherches et ses embauches. Ce bras de fer s'inscrit dans un climat de tension croissant aux États-Unis, où les universités sont devenues un champ de bataille politique. Il s'agit-il d'une légitime lutte contre l'antisémitisme ou une tentative autoritaire de museler une université progressive? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Et dans ce contexte d'explication de la situation, on entre sur des points un peu clés. Et oui, depuis l'attaque du Hamas, je vous rappelle, le 7 octobre 2023, contre Israël. Et l'offensive israélienne qui a suivi sur Gaza, le campus américain a été théâtre de vives protestations étudiantes. Au Columbia, cette manifestation a pris une ampleur particulière, notamment en avril 2024. C'est des centaines d'étudiants qui ont occupé le campus pour dénoncer le soutien des États-Unis à Israël, des tentes qui sont installées, des discours qui ont été organisés. Et ça s'est suivi aussi également du coup au 30 avril 2024 où les policiers interviennent de manière très musclée et une force de manifestation et les forces manifestantes sont sous les ordres de la présidence de l'université qui démissionnera quelques mois plus tard sous la pression. Et oui, en février 2025, les étudiants pro-palestiniens vont interrompre un cours sur l'histoire d'Israël au Barnal College, entraînant une expulsion de deux d'entre eux, l'arrestation de Mohamed Khali, qui a un tournant, mais c'est l'arrestation de Mohamed Khali qui a été un étudiant syrien, un doctorat colombien, qui a mis le feu aux poudres. Et oui, effectivement, le 5 mars, cet même étudiant a été interpellé par la police fédérale en pleine nuit sur le campus, puis placé en détention. Ces raisons officielles, participation à des manifestations illégales et menaces pour la sécurité nationale. Pourtant, ses proches et de nombreux observateurs dénoncent une arrestation politique dans la foule. Son permis de séjour est révoqué, ce qui signifie qu'il pourrait être expulsé vers la Syrie où il risque des représailles. Et oui, cette arrestation a provoqué un véritable séisme, bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Des professeurs et étudiants dénoncent une chasse à la sorcière politique. Les défenseurs des droits des hommes alertent sur une violation de la liberté sur X. Et l'administration Trump, elle, assume pleinement et affirme pouvoir vouloir expulser tous étudiants étrangers impliqués dans les manifestations illégales. Ça fait référence notamment à une citation du ministre de Donald Trump qui avait dit, je cite, « Une green card, ça n'empêche rien ». Et il comptait du coup pour expulser ce jeune étudiant. En tout cas, un dangereux précédent pour la liberté académique. C'est le cas actuellement. Jamais un président américain n'avait coupé autant de financement à une université pour des raisons politiques. Si cette mesure passe, qu'est-ce qui empêchera d'autres gouvernements d'intervenir dans l'enseignement supérieur pour imposer leur idéologie? Pouvons-nous bientôt affirmer que oui, ce n'est plus une démocratie ou une république, mais vraiment du totalitarisme dans lequel nous sommes présents? Les mots sont forts, mais la situation l'est d'autant plus. En tout cas, une attaque contre les étudiants étrangers, l'affaire Mohamed Khalid a aussi soulevé une inquiétude plus large. Avec la menace d'expulsion des étudiants étrangers engagés politiquement, Trump recherche-t-il à décourager leur contestation sur le campus? Si un étudiant étranger risque d'être expulsé pour avoir participé à une manifestation, comment garantir la liberté d'expression actuellement au sein des campus, et Columbia doit-elle céder ou résister? Ce sera la question clé. Et oui, Columbia pourrait négocier avec l'administration Trump pour récupérer ses financements, mais à quel prix? Accepter la tutelle gouvernementale serait-elle un précédent dangereux pour toutes les universités. À l'inverse, résister pourrait priver l'université de ressources essentielles, notamment pour la recherche médicale et scientifique. Quelle est la meilleure stratégie selon vous ? Et bien maintenant, moi ma question, ce serait, l'administration de Trump a-t-elle raison de sanctionner Columbia pour lutter contre l'antisémitisme, selon vous, cher chroniqueur ?
Ben, clairement pas. En fait, surtout si on prend en considération le freedom of speech qu'on a aux États-Unis, qui est un de leurs bastions de l'importance d'être un Américain, en fait. C'est vraiment retiré à des fins politiques du financement là, pour de la recherche qui bénéficie à tout le monde, en fait. Là. Donc, c'est une pente vraiment très glissante et très dangereuse, je dirais.
Ben, actuellement, on peut se poser la question, est-ce que potentiellement, est-ce que aussi ça peut être... c'est ce que j'ai vu, c'est Valérie Giscan qui avait dit ça, c'est une journaliste française qui avait dit, qui déjà insultait et critiquait la situation actuelle et qui disait que peut-être aussi, comme à Washington, c'est un moyen d'imposer sa politique au-delà et à partir de sujets évocateurs, voire même provoquants, voire même assez complexes comme l'antisémitisme. Est-ce que peut-être ça serait pas une stratégie pro-Trump pour pouvoir... avoir une main dans cette zone, parce qu'on sait que cette université est quand même assez reconnue dans le cadre de protestations, manifestations ou même de points de vue politiques. Je ferai un parallèle avec Paris 8, c'est vraiment une université politique celle-ci, dans le sens où les étudiants sont très engagés dans leur cause. Est-ce que ce serait peut-être pas un moyen d'insérer une politique Trump dans l'université ? Selon vous, je ne sais pas si vous pensez à peu près ça.
Oui, ben, un parallèle québécois serait peut-être l'UQAM, en fait, là, qui est relativement très politisé et très forte dans les manifestations, souvent. C'est un peu ce qu'on voit, en fait, avec Trump, là, du côté d'imposer sa vision des choses. C'est vraiment quelque chose qui est peut-être un peu plus problématique. Donc, au lieu d'aller vers les chemins qui sont habituels, donc avec le Congrès, passer des lois, des choses comme ça, il va vraiment avec la force, donc ses ordres exécutifs. C'est vraiment...
J'ai l'impression qu'il cherche à imposer avoir un contrôle, tu vois, dans l'État, au sein aussi du pays américain et du continent américain. Je pense qu'il veut vraiment, réellement avoir un contrôle et une omnipotence dedans. Or, la liberté académique est quand même à ne pas oublier, à ne pas faire valoir. Est-ce normal ? Pour moi, non. Mais bon, après, c'est que mon humble avis. Mais en tout cas, selon plusieurs experts, en tout cas, c'est vraiment une régression et la répression n'est pas du tout justifiée. Il y a certains, même professeurs, qui critiquent l'arrestation de Mohamed Khalid. Et pour eux, c'est un signal d'alarme d'une future répression des étudiants étrangers aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez peut-être ou vous affirmez à dire que peut-être cette affirmation est possiblement vraie dans un avenir proche?
Ben oui, c'est sûr. Là, si on regarde, justement, on parlait de Mahmoud Khalil. Lui, il avait une carte verte, donc il était citoyen américain. Il était aussi marié à une Américaine.
C'est ça.
Donc, il était tout en règle. En fait, là, c'est un Américain. Et ils ont vraiment pris... ils l'ont pris, en fait, ICE l'ont pris de New York et ils l'ont fait disparaître carrément. Là, sa famille ne savait pas qu'il était où pendant quelques jours.
Ben, on a pas de nouvelles encore.
Il est en Louisiane. Il est en prison en Louisiane présentement, mais c'est ça. Il vient de New York, donc il n'y a aucune raison qu'il soit en Louisiane présentement. Là.
Ben ouais.
Et sa famille, il ne savait pas il était où pendant un instant. Tout ça. Donc, c'est vraiment une pente glissante quand tu as des gens qui ont des cartes vertes, quand tu as des gens qui sont mariés à des Américains, donc des gens qui sont légalement là, qui ont un statut légal, qui sont censés être protégés, en fait, là, par toutes les lois qui sont en place. Là.
Par l'administration, oui.
Exactement.
Ben, on voit que ce n'est plus du tout le cas actuellement.
Et c'est que la pente est glissante dans le sens que si on peut déporter quelqu'un avec une carte verte, on peut déporter... puis Trump aussi qui veut enlever le birthright citizenship, donc la citoyenneté là, quand
de
tu
naissance.
Mets sur le terrain américain. Si ça passe, à ce moment-là, tous les Américains sont un peu à risque là, parce qu'ils sont tous à quelques générations. Il y en a plusieurs qui sont à seulement quelques générations.
Bah, c'est ça. Hein.
Donc, c'est un climat dangereux, disons, là, pour toutes les personnes qui n'ont pas une lignée très, très forte aux États-Unis présentement. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui supportent ça aussi.
Bah,
de ce
en fait, c'est plusieurs petits événements en interne qui remettent en considération la politique qu'on a connue aux États-Unis, même en Amérique, un peu plus large. Je conclurai en disant que cette affaire Columbia, eh bien, c'est bien plus qu'un simple conflit entre un gouvernement et l'université. Il symbolise un affrontement plus large. D'un côté, l'administration Trump qui veut imposer une vision conservatrice de l'enseignement et de l'ordre public, et de l'autre, une université qui incarne les valeurs progressive de la liberté académique. La question est simple, Columbia est-elle la première d'une longue liste d'universités qui risquent de subir des sanctions politiques, ou s'agit-il peut-être d'un cas isolé? En tout cas, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite chronique, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse des grands enjeux de notre époque et de nos instants dans l'émission Le Neuf. Comme on vous le dit si bien, si vous n'êtes pas branché, vous venez de vous connecter, shame on you, faut suivre la suite parce que la suite c'est toujours mieux.